Quand on néglige sa jeunesse, c'est dans le fond qu'on tombe en dépression et qu'on est incapable de préparer son avenir.
Ça ne veut plus rien dire, Lucien. C'est des merdeux, des cons.
Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Voulez-vous coucher avec mon IA? C'est la question 2018.
Sexbot, sexting, sexto, sexe à distance, sexe virtuel type Second Life, joujoux sexuels électroniques, machines désirantes, voire désirables, la sexualité à l'ère de l'intelligence artificielle, des réseaux sociaux, des robots sociaux, est-elle en train de muter, d'évoluer, voire de se révolutionner?
On est le samedi 17 mars et on se dirige avec Alexandre à la salle Jean Cocteau à Clermont-Ferrand, lieu où va se dérouler cette conférence dans le cadre du Festival Vidéoforme 2018. Et pour nous accueillir, Élise Asport, docteur en histoire de l'art, thèse sur l'art et l'intelligence artificielle, vie artificielle et robotique, nous présente comment va se passer cette conférence. Vous la connaissez déjà peut-être dans l'émission Contemporalis sur Radio Campus Clermont-Ferrand. Aujourd'hui, son rôle, être modératrice pour cette conférence sur le sexe 3.0. Mais avant de commencer, petit tour de table de cette Univox avec Nicolas Spatola, assistant de travaux d'enseignement et de recherche, enseignant et membre de l'APSCO, laboratoire de psychologie sociale et cognitive, suivi de Marion Rolanda, maître de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'Université Clermont-Auvergne, puis Yann Min, artiste chercheur en nouveaux médias, no-compteur, cyberpunk, no-note, mouvement explorateur, au long cours du cyberespace de la noosphère.
Bon, ça fait pas mal de no-o, mais ne vous inquiétez pas, on vous explique cela dans quelques minutes, juste après le début de cette conférence.
Univox. Donc l'intitulé de la table ronde, vous le savez, c'est donc Sexe 3.0. Voulez-vous coucher avec mon IA ce soir, IA pour intelligence artificielle. Donc 2018, c'est à nouveau le renouveau donc, de l'IA, l'intelligence artificielle. Donc je vais vous donner juste quelques chiffres, c'est que le marché de l'IA devrait passer donc de 8 milliards d'euros en 2016 à plus de 47 milliards d'euros d'ici donc 2020. On y est presque, hein, on est aux portes. Alors, ceci est au conditionnel, hein, mais c'est un conditionnel en fait qui se conjugue de plus en plus au présent. Donc, on voit un peu l'échelle et l'essor que va prendre éventuellement ces technologies. Et voilà. Et dans le domaine donc du sexe, a priori, les poupées sexuelles, qui pour l'instant n'existent pas véritablement, on va en discuter, et l'IA vont faire florès, hein, donc d'ici peu. Et vous allez voir donc que les arts numériques, ce ne sont pas simplement que des belles choses colorées qui bougent. En fait, l'art numérique, c'est un outil, un moyen, et l'art en fait, en tout cas, dit des choses et fait éprouver des choses. Je vais donc commencer par donner la parole donc, aux intervenants. Et je me suis dit que cette humanoïde, finalement, Nicolas, avait des choses à dire. Donc la table ronde Vidéoforme 2018, c'est parti.
Bonjour à tous, du coup. Donc, comme on le disait précédemment, en fait, toute l'idée d'avoir des robots, c'est aussi une ouverture de problématiques, en fait, à beaucoup de niveaux, notamment au niveau des comportements sexuels, en fait, qu'on peut avoir avec. Il serait bon de spécifier que qu'est-ce que c'est en fait un comportement sexuel. Un comportement sexuel, en fait, c'est quelque chose de très complexe. Pour une petite anecdote, en fait, on a laissé au rat en fait une petite pédale sur laquelle il pouvait appuyer pour déclencher en fait ses électrodes. Et ce qu'on a vu, c'est que ben, tous les rats à qui on avait mis ces électrodes et à qui on permettait en fait de pouvoir se déclencher des orgasmes à répétition ont fini par se suicider à coup d'orgasme. Donc, comme je le disais, notre corps, il est fait pour avoir des rapports sexuels. Il s'est développé, en tout cas, pour ça. Mais finalement, au-delà de cet aspect qu'on pourrait dire animal, on a développé en fait toute cette idée de sexe autour de différents aspects. Donc, il y a tout un aspect social qui mène au comportement sexuel et qui font partie en fait du comportement sexuel. Parce que si on a ces comportements, c'est pour techniquement pouvoir se reproduire. Donc, il y a ensuite tout l'aspect de l'attachement avec principalement une hormone qui est l'ocytocine, qui est sécrétée en fait et qui donne ce sentiment d'attachement. Et ensuite, il y a tout l'aspect fantasme qui fait partie en fait aussi de pourquoi on a développé des robots, etc. Donc ces comportements sexuels, ils ont évolué au cours du temps. En fait, 80 000 ans avant Jésus-Christ, on retrouve ce qui est considéré comme des premiers outils sexuels. Solliciter en fait nos centres du plaisir, c'est quelque chose qui est ancré en fait dans notre espèce. On voit aussi que pourquoi c'est là-dedans qu'en robotique on fait le plus de recherches, c'est parce que économiquement c'est quelque chose, un secteur extrêmement viable. Et là, les Real Doll, à chaque fois qu'on les propose en précommande, c'est dévalisé en 30 minutes et il n'y en a plus. Enfin voilà. Donc à quel moment on va pouvoir changer la forme d'une poupée, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre pour satisfaire au mieux les plaisirs ou les spécificités des désirs de chacun, etc. Donc ça, c'est des grandes questions en fait, que la robotique pose. Il y a tout un aspect en fait d'intelligence, de développer des IA en fait qui sont faites pour ça, donc de comprendre en fait quand par exemple si vous avez des rapports sexuels avec un robot, l'idée derrière leur construction, c'est de qu'ils puissent s'adapter en fait à vos désirs sans que vous ayez besoin de les prononcer. C'est-à-dire qu'il va capter en fait tous les détails de votre corps et tout votre vascularisation, là où vous avez le plus de, enfin là où il sent que ça fait accélérer votre rythme cardiaque. Il va pouvoir capter le taux de, enfin la sudation de votre peau, etc. Donc ça, c'est des indices physiologiques que nous on utilise en labo pour étudier tous les comportements humains. Mais en fait, là, ça sera utilisé pour savoir si le robot trouve la meilleure solution pour vous faire plaisir. Et donc, ça pose d'autres questions, c'est-à-dire qu'on essaie de créer un robot qui soit le plus performant possible pour vous donner du plaisir. Il y a une complexité vraiment technique, en fait, c'est que reproduire le corps humain, c'est quelque chose de vraiment très compliqué. On n'y est vraiment pas encore. Là, pour l'instant, en fait, il y a donc une théorie qui a été faite qui s'appelle l'Uncanny Valley, qui est l'acceptation en fait, des robots. Et l'acceptation des robots, elle va être notamment due à leur apparence. Donc ce qu'on appelle l'Uncanny Valley, donc c'est Masahiro Mori qui l'a théorisé, c'est l'idée qu'on va accepter les robots jusqu'à un moment où ils vont paraître trop humains, et à ce moment-là, en fait, ils vont être trop humains, mais pas assez humains. C'est-à-dire qu'on va avoir l'impression que c'est des cadavres ou quelque chose. En fait, il va manquer une motricité, dans leur, un aspect naturel en fait, dans leur mouvement, dans leur visage, etc. Et ça veut dire que dans... je dirais au moins une vingtaine d'années, on va commencer à avoir des robots qu'on accepte beaucoup mieux parce que leur faciès va être beaucoup plus agréable. Et ce défi technique, il est lié par un fantasme qu'on a en fait des robots et qui sont transmis par l'art notamment, au travers de la science-fiction, de ce qu'on peut voir dans des séries, dans des films, etc. Mais ce qui est le plus intéressant, en fait, c'est les changements sociaux que ça va opérer sur sur nos comportements. Parce que là, en fait, techniquement, vous pouvez très bien faire un robot qui a un haut d'homme et un bas de femme ou l'inverse. On peut modeler des robots comme on veut. Et ça pose des grosses questions. C'est est-ce qu'on peut faire n'importe quoi? Est-ce que il faut pas réfléchir à ça avant? Et quels sont les changements sociaux que ça va opérer? Et je vais être honnête avec vous. On n'a absolument aucune idée de à quel point les robots peuvent changer notre société. Et ça marche pas que pour les comportements sexuels. Ça marche aussi pour l'intégration des robots sociaux, donc les robots qui ne sont pas dans des usines mais qui sont chez vous, dans la rue, etc. On n'a absolument aucune idée de à quel point ça peut changer les choses. Pour tout vous dire, en fait, en France, on est le seul labo qui étudie comment les robots influencent vos capacités cognitives. Par exemple, quand vous conduisez, vous regardez la route, vous ne regardez pas les oiseaux. Et bien, on a vu que la simple présence d'un robot, ça va modifier, comme un humain pourrait modifier, votre performance sur différentes tâches. Ça va redéfinir aussi, en fait, tout un tas de concepts. Est-ce que vous pourriez préférer un robot avec lequel vous êtes intime à un humain? Par exemple, si vous deviez aider l'un ou l'autre, qu'est-ce que vous feriez? Il y a un exemple très concret, en fait, que j'adore prendre, qui est celui des robots démineurs dans l'armée américaine. Et en fait, on voit que quand les robots sont touchés, donc sur des champs de bataille, les soldats n'hésitent pas à aller se mettre en fait en danger pour aller récupérer leur robot, parce que c'est leur robot. Ils ne veulent pas en avoir un autre, ils veulent avoir leur robot. Et donc, ils vont sous le feu pour récupérer leur robot. Et de même manière, lorsqu'ils le ramènent, les robots ont des funérailles militaires. Et donc, comme je disais, le dernier point, c'est les limites biologiques. Et la limite biologique, c'est d'avoir des enfants avec des robots. Et donc ça pose des grosses questions éthiques, morales, etc. Et c'est ce dont on va parler tout de suite pour finir. L'éthique et la morale avec les robots, c'est les principales questions qu'on doit se poser aujourd'hui et pas demain. Parce que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est qu'on développe beaucoup de choses et on ne sait pas du tout quels impacts ça a sur nous, comment on le considère, qu'est-ce que ça change dans nos représentations, etc. Donc ça a des côtés vraiment très positifs d'avoir des robots, des IA, etc. Mais ça a des côtés aussi sur lesquels il faut s'interroger. Déjà, au niveau de l'apparence qu'on peut donner à un robot. Il y a une série qui s'appelle Altered Carbon qui va un peu plus loin que ça, mais qui parle de ces questions, en fait, donc je vous invite vraiment à les jeter ça. Et en fait, ça pose des questions de réplication, etc. Par exemple, si vous avez votre robot à vous et que vous vous êtes attaché à lui et que vous allez dans la rue et que vous voyez en fait son clone, qu'est-ce que ça va vous faire? Comment vous allez réagir, etc. Si on commence aujourd'hui à avoir des comportements déviants avec des comportements déviants, c'est des comportements qui ne sont pas socialement acceptés avec les autres humains. Les robots vont évoluer. On sait que les robots vont évoluer et Westworld en fait en est un très bon exemple, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à faire la différence entre le robot et l'humain. Si on commence à agir avec des robots aujourd'hui qui sont très mécaniques de manière un peu déviante, quand ils seront totalement humanoïdes plus tard, on reproduira exactement la même chose parce que ce sera l'habitude qu'on a pris. Et ça, c'est le danger, en fait, des robots. Pour moi, c'est le principal danger. Donc, s'il y a deux mots, en fait, que j'aimerais que vous reteniez de ce que je viens de vous dire, c'est qu'il faut réfléchir à ce que nous voulons faire des IA et des robots aujourd'hui. Pas simplement au niveau des comportements sexuels, mais aussi de manière générale. Et il faut réfléchir à comment évoluer avec ces nouvelles technologies sociales, parce que c'est des technologies sociales qui vont changer l'entièreté de notre société.
C'était l'intervention de Nicolas Spatola sur la place des humanoïdes dans notre société. J'espère que vous n'avez pas pris peur. Et si vous souhaitez en savoir plus sur ses recherches, vous pouvez le retrouver sur son site nicolas-spatola.webnode.fr.
La suite de cet Univox vous réserve encore bien des surprises avec l'intervention de Marion Rolandin qui nous parlera de la place des outils de communication numérique dans les relations humaines.
Univox. Univox.
Mais que serait cette conférence sans évoquer le film Her, réalisé par Spike Jonze en 2013, dont voici le titre photographe d'Arcade Fire, extrait de la bande originale.
En rupture avec les classiques tels que Blade Runner ou Terminator, le film Her met en avant une intelligence artificielle souhaitant construire une vraie relation avec l'homme avec un grand H. Ce qui change des scénarios où l'IA cherche à nous détruire ou encore à nous asservir. Ce film fait notamment écho à la série suédoise Red Humans qui mène à nous poser des questions telles que « Qu'est-ce qui fait de nous des humains ?» ou encore « Un être pensant est-il nécessairement un être qui ressent ?»
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Et si vous êtes intéressé par ce film, sachez qu'il y aura un ciné-débat le 26 avril à partir de 20h30 au cinéma Lumière, 12 rue de la Barre, dans le 2e arrondissement de Lyon. Il y aura une projection du film suivie d'un débat et c'est dans le cadre du off du festival Les Intergalactiques et en partenariat avec Lyon Capital. Parmi les invités, Sylvie Lenné-Crouzel, professeure en sciences de l'information à l'université Jean Moulin Lyon 3 et autrice de science-fiction, et Jana Débat, autrice de science-fiction et directrice artistique du festival Utopial de Nantes. Et pour faire du sexe 3.0, si on n'a pas de robot, il faut rencontrer des gens. Quoi de mieux que de les rencontrer de façon 3.0 pour trouver la bonne personne, celle avec qui on s'épanouira le plus. Marion Rolandin, maître de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'Université Clermont-Auvergne, nous parle aujourd'hui de la série Black Mirror et du site de rencontres mythiques et essaye d'imaginer ce que pourrait bien nous réserver le futur en termes d'interaction sociale.
Alors, dans mes recherches, en fait, je travaille sur la manière dont tous les outils numériques vont nous amener à repenser la communication et les interactions. Donc, ça m'a amené à me dire que j'allais pouvoir vous parler de tout ce qui était site de rencontre et des formes de communication qu'ils allaient induire chez les utilisateurs. L'idée pour moi, en fait, ça va être de réfléchir à ce qui se passe et à ce qui pourrait se passer dans un futur proche en comparant, en fait, un système fictif et un système de rencontre existant. Pour le système fictif, je m'appuie sur celui qui est décrit en fait dans l'épisode 4, alors dont on a parlé, de la saison 4 de Black Mirror. Alors je vais essayer d'établir en fait un parallèle donc, entre des éléments de cet épisode qui caractérisent le système et des éléments du site Mythique, qui est un site de rencontres amoureuses qui permet de consulter donc, des profils de célibataires qui cherchent des rencontres sérieuses. Ce parallèle, alors, il se base sur une analyse sémiopragmatique des outils technologiques, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai cherché à comprendre comment les possibilités d'action et de communication des deux systèmes, donc Mythique et le système fictif, allaient avoir un impact en fait, sur la communication et sur les relations amoureuses. Alors, j'ai essayé d'enrichir cette analyse par le recours à des discours en fait, d'usagers qui sont utilisateurs de Mythique, afin de voir en fait, comment ils allaient réagir par rapport à ce qu'on leur propose. Alors dans la série, les célibataires, en fait, ils vont avoir des interactions avec le système uniquement par le biais de leur boîtier. Ça va être vraiment la seule interface avec laquelle ils vont avoir accès, mais qui va les accompagner vraiment à chaque fois. Donc l'algorithme va collecter des données à chaque fois que les célibataires vont s'engager dans une série de relations. Alors il faut voir qu'on a très peu, en fait, d'informations sur les critères qui sont analysés, si ce n'est que la coach virtuelle, en fait, ne cesse de répéter que tout ce qui arrive est prévu par le système, même si le feeling passe parfois très très mal avec la personne qui est imposée au célibataire, et ce, dès les premiers instants. Alors du côté de Mythique, on va aussi avoir la figure du coach qui va intervenir, et ce, dès la page d'accueil, si par exemple on ne remplit pas tout de suite le formulaire de création de profil. Une fois qu'on a créé un compte, on va pouvoir accéder donc à tout un tas de profils qui vont être liés à la localisation donnée. Alors il faut bien voir que contrairement au système dans la série, le site Mythique, en fait, ne va pas collecter des données à partir d'une observation de nos comportements. Ça va être vraiment à l'usager de se définir, mais cet usager va être guidé en fait, par une série de questions. On peut se demander, par exemple, quelle influence vont avoir les réponses sur le tri des profils et sur l'image qu'on va se construire et qu'on va du coup diffuser à travers le site. Contrairement au système qui va imposer une relation dans la série, qui garantit du coup quand même une interaction à durée définie, sur Mythique, nous sommes plutôt face à la construction d'un espace d'opportunité, potentiel de rencontre, qui va être constitué de profils de personnes que nous n'aurions pas forcément rencontrés au quotidien. Alors pour terminer, je vais me focaliser sur les comportements des utilisateurs du système et du site. Par exemple, si tout le monde a une idée en fait, de ce qu'est une rencontre amoureuse, est-ce qu'on en a tous la même interprétation? Comment le média de la rencontre va pouvoir essayer d'orienter des comportements? Par exemple, les usagers demandent très souvent en fait, dans la série à leur coach ce qu'ils doivent faire. Ils attendent en fait, une orientation du comportement qui est vraiment plus importante que ce qui est proposé par le dispositif et souhaiteraient notamment savoir ce que font les autres, surtout en ce qui concerne le sexe. Tout au long de la série, en fait, il semble vraiment important de savoir ce que font les autres, si ce qu'on fait équivaut en fait au comportement des autres, si on est finalement dans la norme. Passons cette fois à Mythique. Donc sur Mythique, il va y avoir, par exemple, comme je vous ai montré ici, un badge qui permet de repérer les membres mythiques les plus sérieux et les plus courtois. Alors l'obtention de ce signe distinctif symbolise une confiance de la part des usagers et de l'espace en ligne. Et ça va représenter en fait un facteur qui peut inciter finalement les personnes à adopter ces attitudes en disant bah, « si j'ai le badge, peut-être que j'aurai plus de chances que mes rencontres aboutissent ». Alors on note aussi que Mythique diffuse sur un blog des conseils qui portent sur les comportements à adopter durant la relation. Pour finir, quelques éléments en fait de conclusion et peut-être en fait d'ouverture on va dire, à la discussion. On va avoir par exemple le système qui est un outil, donc dans la série, qui est un outil de rencontre qui ne me semble pas envisageable en fait dans notre société, avec des choix de partenaires et des durées qui sont imposées. L'amour ici est réduit en fait à une suite d'expériences, ce qui peut s'éloigner en fait de nos représentations culturelles. Toutefois, le processus de mise en relation permet une communication qui est simple et directe, qui est affranchie de la crainte du regard de l'autre. On retrouve d'ailleurs ça sur Mythique, qui permet de prendre contact donc avec plusieurs profils, tout en laissant la possibilité de rompre la communication à tout moment, sans craindre les réactions de l'autre, étant donné que les amorces d'interaction se font par écran interposé. Ensuite, il faut voir que l'accompagnement de Mythique a ses limites, dans la mesure où de nombreux paramètres autour de la rencontre en fait, vont être liés aux capacités interprétatives de chacun. Également, on va avoir aussi donc la considération de l'acte sexuel dans la série, qui équivaut à un engagement par contrat entre les personnes, une sorte finalement de moment obligatoire à passer dans chaque relation. Il faut voir que sur Mythique, on ne trouve pas vraiment en fait de mention de la rencontre sexuelle. Cela va plutôt se faire en fait dans les discussions entre les individus, donc en privé. Enfin, le dernier point que je voulais aborder, c'est que dans la série, l'enjeu est de sortir du système en trouvant un partenaire avec qui être appareillé. Sur Mythique, on peut se poser la question. Est-ce que le but est vraiment d'arrêter de se servir de ce site ? Pourquoi je dis ça ? C'est que, d'une part, Mythique a un intérêt financier à ce que les usagers utilisent les services ou reviennent en cas d'échec amoureux. Et d'autre part, du côté des usagers, il faut voir que certains, en fait, y voient une opportunité. Opportunité non pas de tisser une relation amoureuse, mais plutôt de tisser, en fait, des relations sociales avec des personnes qui vont avoir des points communs, et qui partageront aussi les mêmes disponibilités temporelles qui sont liées à leur statut en fait de célibataire. Je vous remercie.
Merci Marion.
Et pour la dernière partie de cet Univox, on passe à notre dernier intervenant, Yann Min, artiste et chercheur en nouveaux médias, mais également nos compteurs cyberpunk et noonautes, qui va notamment nous parler de cybersexe, cybernétique, pilules, vibromasseurs ou encore de sexe par téléphone. Mais Coralie, qu'est-ce que signifie le préfixe no?
Eh bien, pour définir son rôle d'artiste, Yann Min a inventé un néologisme, le terme « noonaute ». Il donne comme traduction du préfixe « noo », qui signifie « esprit », et « naute » universellement interprété comme « navigateur ». Yann Min se définit donc lui-même comme un explorateur de la spiritualité sous toutes ses formes. Conscient, inconscient, imaginaire, métaphysique, sexuel, scientifique, mythologique, philosophique, et j'en passe. « Noo », c'est donc l'esprit et l'imaginaire, en tout cas c'est ce que Yann Min en a donné la définition, mais c'est également un nous, un grand nous, car l'art est avant tout une œuvre collective, et ça, Yann Min aime bien le rappeler durant ses conférences, et nous, ça nous fait plaisir.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Je vais parler d'étymologie avec la notion de cybersexe. Alors, cybersexe, il y a deux mots, il y a sexe, je ne vais pas m'étendre dessus, mais cyber. Et donc, d'un point de vue puriste, hein, si on discute avec un scientifique, avoir des relations cybersexuelles, ça serait avoir des relations sexuelles avec un dispositif cybernétique. Donc un dispositif cybernétique, c'est un dispositif qui a un système de traitement de l'information, la boîte noire de Norbert Wiener, c'est-à-dire le dispositif, comme un humain, va interagir avec vous et rentrer dans des relations de feedback. Le premier que je vais découvrir qui fait ça, extrêmement sommaire, c'est 1984 sur Macintosh. Donc c'est quand même Macintosh à la pointe de la technologie. Et c'est Michael Sands. C'est pas n'importe qui, Michael Sands. C'est vraiment un activiste de la sexualité, je dirais, des sexualités alternatives, qui vit à San Francisco, qui est dans cette communauté. San Francisco va être un pool, vraiment un lieu où beaucoup d'expérimentations et d'inventions vont être faites en termes de sexualité alternative. Et en fait, vous voyez, vous avez tout bêtement, c'est un petit dessin animé, un personnage qui est, ça y est, j'ai oublié son nom, c'est MacLemat, et vous la stimulez avec la souris et elle va réagir à vos stimulations. Là, on a un dispositif de robot, d'intelligence artificielle, même extrêmement sommaire, même très simpliste, mais où on a une interaction avec un dispositif. La cybernétique et les relations sexuelles avec des outils, par l'intermédiaire d'outils, c'est le réseau. Le réseau téléphonique, un des plus puissants outils de cybersex, c'est le réseau téléphonique. Énormément de gens, vous-même peut-être d'ailleurs, avez déjà pratiqué une sexualité téléopérée via le téléphone. En France, on dit souvent que c'est les Américains les premiers freakers, les premiers hackers, les premiers pirates informatiques. Non, nous, en France, on a fait mieux que tout le monde dans le monde entier, en termes de piratage du réseau téléphonique. Alors, on a déjà commencé pendant la Seconde Guerre mondiale, les résistants exploitaient un défaut du réseau téléphonique, ce qui fait que par imprégnation magnétique, on pouvait être plusieurs à parler sur la même ligne. Ce qui permettait de balancer des messages, secrets ou pas d'ailleurs, sur ces lignes-là, sans qu'on puisse localiser l'émetteur. Ça a été réutilisé après, ça s'appelait le réseau, et je l'ai pratiqué, ça existait encore dans les années 80. Et en fait, en composant certains numéros, l'horloge parlante en particulier, dans les silences, ou dans les toutes, toutes les tonalités occupées, eh ben on pouvait parler à plusieurs. Et ça a été le premier réseau de rencontres, c'est à vocation sexuelle, téléopéré en passant par un système de réseau téléphonique, à tel point que des gens avaient même inventé des amplificateurs et des systèmes pour créer des sortes d'avatars à l'intérieur de ce réseau téléphonique.
Et pour terminer, une petite info surprenante.
Posez-vous la question de à quoi sert la pilule contraceptive ? La pilule contraceptive sert à donner du confort dans la relation sexuelle pour les femmes pour éviter d'avoir des enfants. Et c'est précisément un outil cybersexuel puisqu'elle bloque, entre autres, parmi les trois fonctions qu'elle a à l'origine, elle bloque une boucle cybernétique dans le cycle d'ovulation des femmes en trompant le corps, en lui faisant croire que la femme est enceinte.
On vous remercie, Yann, pour cette dernière intervention. Et si son univers d'inspiration futuriste et transhumaniste vous a plu, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur son site yannminh.org.
Univox.
Vous l'aurez compris et vous le saviez sans doute déjà, le sexe s'immisce de près ou de loin dans une grande majorité de nouvelles technologies. Hier, le téléphone et la VHS, aujourd'hui Internet et les smartphones, tout à l'heure en réalité virtuelle, demain avec des robots toujours plus vrais que nature.
Mais qu'en est-il d'après-demain ? Est-ce que les humains ne finiront pas par satisfaire leurs besoins sexuels qu'avec des robots animés ou encore par une intelligence artificielle qui saura répondre à toutes leurs envies ? Il existe déjà des applications sur smartphone où l'on peut discuter avec une IA qui apprend à nous connaître, à qui l'on peut se confier et pour qui certains pourraient éprouver des sentiments amicaux voire amoureux.
Mais il y a une sorte de paradoxe auquel on peut aussi réfléchir. Voulons-nous vraiment laisser rentrer des IA dans nos vies quand on se pose aujourd'hui plus que jamais des questions sur la présence des géants d'Internet dans nos vies ? Après le récent scandale d'exploitation des données d'utilisateurs de Facebook par une entreprise britannique, voulons-nous vraiment porter des casques de réalité virtuelle Oculus, société détenue par Facebook ? Ce sont des questions qu'il faudra de toute façon se poser tôt ou tard, quoi qu'il arrive. En attendant, nous, nous sommes bien des humains et on vous remercie d'avoir écouté cet Univox. Merci également à Elisa Sport, Nicolas Spatola, Marion Rolandin, Yann Min et Sylvain Godard. C'était Coralie Alexandre pour Radio Campus Clermont-Ferrand.